Alors bonjour à tout le monde et merci d'être venu écouter en cette belle après-midi ensoleillée, d'être un peu moins au soleil, mais pour écouter justement cette présentation du livre Dividor. Donc on attendait Sophie Coureau des éditions ESF, mais je ne pense pas qu'elle soit dans la salle. Moi, je ne la connais pas, mais non. Alors ben, quand elle arrivera... On lui donnera la parole. Alors, je vais commencer par une petite présentation de l'auteur, même si certains la connaissent déjà. Alors, peut-être on commence directement. Tu voulais dire un petit mot de bienvenue. Hein.
Bon, voilà. Merci. Bon, merci à tous d'être là, effectivement, dans ce samedi ensoleillé. On a envie plutôt de... J'ai regardé tout à l'heure dans la loge... qu'à Bayonne, on avait fait une grève contre la pluie. Je me dis, c'est dommage que le jour où il fait beau, je vous invite à venir là. Je suis désolée de vous infliger cette épreuve d'éviter le soleil. Mais on va essayer d'être sympathique, de passer un bon moment ensemble. Avec Sophie, on a pensé à quelque chose de détendu, de léger entre nous, de discuter de manière un peu légère et de vous laisser aussi le temps, surtout de nous poser des questions, de me poser des questions sur cet ouvrage. J'aurai un grand plaisir à répondre à vos questions.
Bien, alors petit portrait de l'auteur. Alors, Ividor, elle est née et a vécu au Brésil, où elle a étudié la psychologie et elle s'est très vite intéressée à la thérapie systémique, donc ça a été son orientation dès le départ, et qu'elle a conforté auprès d'un des papes de la discipline qui s'appelle Andolfi, et donc elle a étudié en Italie auprès de lui, puis elle est venue en France, a validé son diplôme et est devenue docteur ici même à Bordeaux à l'université. Alors, son travail de recherche de sa thèse a fourni d'ailleurs la matière de son premier livre en solo, qui s'appelait donc « Famille entre deux cultures, dynamique relationnelle et prise en charge systémique », était aux éditions Faber. Et depuis, elle se partage entre sa pratique de clinique en cabinet, puis l'enseignement auprès des étudiants de master ici à l'université de Bordeaux au département de psychologie et anthropologie, et puis également à l'IDES, qui est l'Institut d'études systémiques, où elle forme depuis quand même plusieurs années, on ne va pas dire plusieurs générations, parce que ce serait une insulte que je lui ferais, mais enfin, disons en tout cas, un bon nombre de praticiens systémiques en France. Alors aujourd'hui, elle vient nous présenter son dernier ouvrage, donc a été publié en mai 2017, donc c'est quand même très frais, et qui s'intitule « La thérapie systémique individuelle, une clinique actuelle ». Alors ça a été publié donc aux éditions ESF, qui est très connue des praticiens, et dans une édition qui est, dans une collection qui est prestigieuse, qui est la collection... Vous allez voir tout de suite pourquoi, qui est la collection Orange et qui est dirigée par Philippe Caillé. Voilà, donc vous savez déjà beaucoup de choses sur l'auteur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout une spécialiste de la question et que Yvie m'a gentiment demandé de venir aujourd'hui parce que nous sommes liés d'amitié, puis que j'ai été à ce titre-là l'une des premières lectrices du manuscrit, de ce qui n'était pas encore le livre, et que donc c'était le choix aussi d'avoir quelqu'un comme modérateur qui soit un petit peu le candide et le profane, puisqu'on sait que dans la salle, il n'y a pas que des spécialistes. Alors justement, Yvie, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rappeler donc aux profanes qui sont sur scène et dans la salle ce qu'est l'analyse systémique ?
La psychologie et la psychiatrie, dans ces deux domaines de prise en charge du sujet ou du psychisme, et la psychiatrie, donc les maladies mentales, il y a plusieurs courants théoriques, donc la psychanalyse, très connue, les thérapies cognitives comportementales, les thérapies autour de la personne dite comme ça, psychodynamique, gestalt-thérapie, etc. Et l'approche systémique naît en fait en la fin des années 50, dans une perspective totalement nouvelle. C'est un vrai changement de paradigme, puisque dans les années 50, on va travailler autour du sujet en tant qu'individu, donc le sujet tout seul. Le paradigme systémique amène la perspective d'une lecture familiale, c'est-à-dire systémique. Hein, le sujet inscrit dans un système auquel il appartient et à partir duquel peut-être des symptômes peuvent apparaître. Et donc c'est l'idée, c'est de l'unité de compréhension et du symptôme et du caractère, mais aussi des comportements du sujet, va être la famille.
Alors c'est justement, alors on se dit ok, donc là on va étudier à travers le prisme justement familial, et le livre de ton ouvrage c'est la thérapie systémique individuelle. Alors si je comprends bien, on a une approche systémique qui permet d'approcher l'individu à travers son cercle familial actuel, voire passé, on y reviendra plus tard, mais là, on travaille avec lui de manière individuelle. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui peut paraître un petit peu paradoxal.
Effectivement, donc, on va dire que le changement de paradigme d'une lecture individuelle à une lecture familiale du sujet, sa pathologie, donc la lecture du symptôme, la compréhension du symptôme, est la marque de l'approche systémique. Hein, évidemment, donc c'est la lecture du système, la compréhension du système. La proposition d'une thérapie systémique individuelle, on pourrait s'interroger dans quelle mesure on revient sur le paradigme initial, c'est-à-dire on part de individu à famille et puis on revient à individu. Or, la proposition n'est pas tout à fait comme ça, puisque c'est comment travailler avec le paradigme systémique dans l'accompagnement psychologique dans des contextes de vie où on ne peut pas forcément recevoir les familles. Hein, parce qu'on imagine bien que d'une part, beaucoup de patients ne souhaitent pas venir en thérapie familiale. Or, très souvent, les problématiques qu'ils viennent amener en thérapie sont des problématiques liées à leurs relations familiale, à leur relation avec leur famille ou bien leur entourage. Donc, on est toujours dans une lecture du système, c'est-à-dire le sujet dans son entourage, dans son environnement relationnel et communicationnel, et comment il évolue, du coup, tout seul, mais jamais tout seul, finalement.
D'accord. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a lié au fait aussi que les personnes sont plus, je dirais, individuelles, sont plus des pratiques individualistes, y compris de la thérapie. Donc, il y a un essor de cette thérapie systémique individuelle. Ça, je le comprends, mais pourquoi avoir voulu en faire un livre ?
L'idée, le projet de livre, il part certainement d'un questionnement personnel, pour moi, dans ma pratique en tant que systémicienne, parce que j'ai fait beaucoup de thérapies familiales, vous imaginez, beaucoup de thérapies de couple, des supervisions, donc ça fait partie de ma pratique, la réflexion autour du système, du groupe, c'est toujours le plus fort de mon activité. Néanmoins, j'ai fait beaucoup de thérapies individuelles, et beaucoup de systémiciens le font aussi. Et donc, c'est parti aussi de cette réflexion de dans quelle manière je ne suis pas en train de trahir le modèle initial, le modèle auquel j'adhère et pour lequel j'enseigne et avec lequel j'ai pratique, etc., en faisant des thérapies individuelles. Dans quelle mesure ce changement n'est pas un changement qui trahit finalement le paradigme initial du point de vue systémique. Et donc je suis partie à vouloir un peu lire, travailler sur ces questions en me disant, est-ce que je peux m'autoriser en tant que systémicienne à rencontrer des personnes en individuel ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une entorse au projet, à la théorie, mais au projet thérapeutique ? Alors que j'avais quand même le sentiment que cet accompagnement était un accompagnement ma pratique m'indiquait que cet accompagnement était un accompagnement d'une part efficace, intéressant et qui était source de, on va dire, de bien-être pour les patients. C'est-à-dire que ça, il y avait des effets. Il y a des effets sur le plan de la thérapie individuelle. Et donc, je suis allée chercher la bibliographie autour de ça, mon côté donc quand même académique, chercheur. Et je me suis retrouvée face à un vide très important de matériel. Donc, les ESF, avec Sophie Courreau qui est là. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous voulez venir nous dire un petit mot, au moins, sur... Vous êtes venue de Paris, la capitale. Et donc, les ESF publient en France le premier livre sur l'approche systémique individuelle, sur la prise en charge systémique du sujet... un individuel. Donc, pas forcément avec un accompagnement où la famille se déplace au cabinet du professionnel. Donc, il y avait un vide sur le plan des écrits, la littérature, mais aussi un vide sur le plan des formations. C'est-à-dire que je forme des professionnels depuis plusieurs années et dans l'institut de formation où je travaille, mais dans les instituts de formation d'où je viens, où j'étais formée, il n'y a jamais un module... Il n'y avait pas un module sur la thérapie systémique individuelle. Alors que c'est pratiqué par beaucoup.
Okay. Donc il y a un paradoxe donc, que tu t'emploies justement à combler un vide. Et tu dis donc qu'en matière de formation, il n'y a, bah, y a pas jusqu'à peu grand-chose qui est développé. Tu dis aussi que... En fait, on assiste aujourd'hui à la présentation d'une première française aussi, puisque du coup, ça prend tout de suite un peu plus d'importance. Je deviens de plus en plus intimidée, puisque c'est le premier ouvrage publié sur cette question-là. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris à la lecture du livre, c'est qu'en tant que non spécialiste, il y a une vraie facilité de l'abord. C'est-à-dire, je l'ai lu avec plaisir et avec facilité. Il y a une simplicité de style. Donc ça, c'est vraiment justement très agréable. Une volonté de se faire comprendre, de transmettre. Qui est assez loin de ce qu'on peut lire par ailleurs. Alors, est-ce que, justement, cet ouvrage se veut un ouvrage pour les futurs praticiens ? Est-ce qu'on est finalement dans un... un petit peu court exprès. Est-ce que c'est un manuel à l'usage du futur thérapeute systémique ?
C'est vrai que je ne sais pas dire les choses de manière compliquée. C'est peut-être une limitation intellectuelle. Et peut-être aussi, c'est l'exercice de l'enseignement. C'est-à-dire que j'enseigne depuis plusieurs années et je trouve que c'est tout l'intérêt de transformer des choses qui pourraient être simples, hein, des choses accessibles, lisibles à tous. Et donc... Je crois qu'il y a aussi un style dans mon écriture qui est effectivement qui va dans le sens de cette préoccupation-là, mais je pense aussi que c'est aussi ma manière de faire. C'est pas fait exprès pour rendre accessible. Je crois que c'est un peu naturel pour moi. Donc j'ai pas de mérite de avoir voulu rendre accessible. Je ne sais pas faire autrement. Alors j'ai voulu que je t'ai invité à venir aujourd'hui parce que. Tu es la deuxième personne à avoir lu le manuscrit, après Stéphane, mon mari, qui lit ce que j'ai écrit très rapidement et en diagonale, mais il lit quand même parce que je lui mets une telle pression. Mais t'as lu ? T'as lu ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, donc il finit par le lire, et c'est quand même toujours une lecture qui m'emporte beaucoup. Mais je voulais que ça soit quelqu'un qui n'était pas du tout du milieu avant d'avoir envoyé le livre chez un éditeur. Je voulais que ce soit quelqu'un qui n'était pas du tout du milieu parce que je voulais que tu me dises qu'est-ce que tu avais perçu. Moi, j'ai confiance dans ton analyse et dans ta manière de voir les choses. Et donc, je voulais que tu le lises. Donc, je suis très contente que tu aies accepté d'une part de lire le manuscrit et d'autre part d'être ici. Et après, oui, je pense que ce n'est pas forcément un manuel. C'est vrai que c'est un livre pour les professionnels. Dans une collection... qui est très reconnu par les professionnels. Mais c'est aussi un livre, justement par cette partie pratique où je raconte des situations, des études de cas, qui est aussi destiné à toute personne qui s'intéresse à la relation humaine. Donc du coup, ça fait un vaste public.
Alors justement, dans ma question précédente, j'ai parlé de l'accès abordable de l'ouvrage, mais quand j'ai réfléchi à cette question de proximité donc avec le lecteur, je me suis dit aussi que ça résonnait avec une des premières, je dirais une des premières sensations que j'ai eues en lisant le livre aussi, c'est que cette notion de proximité, on la retrouve dans la pratique. Dans ta pratique systémique individuelle, où on voit que l'humanité, donc ce qu'on pourrait dire le fait d'être dans une approche extrêmement bienveillante, avec une posture qui est toujours à hauteur d'homme avec un grand H évidemment, une certaine douceur aussi dans l'approche, une certaine, comment dirais-je, délicatesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une approche du patient qui pourrait être, je dirais, décalée entre le sachant et le disant, ou avec justement une volonté peu brusque ou un peu brutale dans la pratique. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant parce que moi qui n'y connais pas grand-chose, t'es assez loin finalement des clichés que je pouvais avoir sur les thérapeutes en général.
Alors, c'est vrai que les thérapies systémiques, elles sont aussi connues par ce qu'on appelle la deuxième cybernétique, c'est les systémiciens, qui, on va dire que c'est la deuxième... Le deuxième point fort, on va dire, la deuxième affirmation qui oriente le travail du systémicien, qui est l'idée de la non-neutralité. Donc, on part du principe que la neutralité n'existe pas, et donc, du coup, que le professionnel, il travaille avec ce qu'il est, avec ses représentations et la manière qu'il a de regarder les choses. Donc, il est guidé par le fait qu'il n'est pas neutre, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la pensée systémique qui le dit comme ça. Et donc, il est vrai que les systémiciens sont connus pour être plus directifs ou même aussi pour questionner plus. Il y a ce qu'on appelle le questionnement circulaire que je développe dans le livre. Il y a une manière d'aller vers le sujet et de l'aider et de l'accompagner dans le faire récit. Effectivement, il y a quelque chose comme ça. Après, il y a quelque chose peut-être de personnel aussi. Parce que moi, je me dis toujours que pousser la porte d'un psy, c'est pas quelque chose de facile. Et alors, on arrive déjà dans un état un peu de détresse, de mal-être, parce qu'on ne pousse pas la porte d'un psy parce qu'on est heureux et que tout se passe bien. On pousse la porte d'un psy parce qu'on est dans un état de souffrance. Et du coup, et là, c'est une vraie réflexion personnelle, je me dis, c'est difficile de ne pas accueillir quelqu'un de manière empathique, chaleureuse, qui fait déjà cet exercice si difficile de appeler quelqu'un, prendre rendez-vous, se décider à parler de lui, de sa vie. Donc, c'est vraiment très compliqué pour moi de ne pas me sentir dans la responsabilité d'accueillir du mieux possible cette personne qui vient. Alors, je ne deviens pas amie avec mes patientes, je les vous vois, ils me vous voient, nous avons une relation très cordiale, mais il y a une relation cordiale et chaleureuse. Alors, il se peut aussi que ça soit lié à ma culture, que ça soit lié aussi à un style aussi culturel. Je ne sais pas, mais en tout cas, la préoccupation d'accueillir l'autre, d'accueillir sa parole, d'être respectueux et de rendre cet exercice le moins douloureux possible pour lui, c'est sûr que c'est une préoccupation.
Justement, ce qu'on voit bien avec un changement d'ailleurs rédactionnel dans le livre, puisque on a une première partie qui est une première partie avec, je dirais, l'appareil théorique qui permet de comprendre où on se situe par rapport à la thérapie systémique dans son ensemble par rapport à la TSI, c'est-à-dire la thérapie systémique individuelle, et la TSF, qui n'est pas la radio, mais la thérapie systémique familiale. Donc il y a un appareil théorique, et qu'il y a également deux études de cas que tu présentes très en détail, qui sont intéressantes, on y reviendra tout à l'heure, mais qui sont d'ailleurs présentées à la première personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a le jeu qui arrive dans la rédaction, alors que toute la partie précédente, je dirais, a un style plus, plus académique, où tu ne parles pas à la première personne.
C'est vrai que je m'adresse à la première personne au lecteur, pas au patient, même si je raconte à plusieurs reprises. Dans le livre, il y a des questions que je pose, des redéfinitions, de recadrage, des manières de redire ce qui est dit par le patient. Donc il y a plusieurs effectivement échanges qui sont décrits, développés, retranscrits dans le livre. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à cette partie-là. Et donc, du coup, il y a eu une vraie réflexion de comment je vais faire pour faire cette transformation, de passer du « nous » dans un langage plus effectivement académique, dans une lecture de la théorie, etc., à un langage où je m'adresse au lecteur « je ». Et les ESF ont été très, très compréhensifs dans ce passage-là, puisque c'est quand même pas fréquent quand même qu'on le fasse dans les ouvrages. Et l'intérêt pour moi était que je ne pouvais pas ne pas m'engager. C'est-à-dire que tout ce que vous allez lire, ou ceux qui ont déjà lu, tout ce que vous allez lire sur les échanges entre moi et le patient, ce que j'ai dit, moi, c'est de ma responsabilité. Et donc, si vous lisez des choses où vous dites n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille ? Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Comment on peut poser cette question à quelqu'un ? C'est de ma responsabilité. Et donc, c'était difficile pour moi d'ajouter une espèce de « nous » qui n'est personne d'autre que moi toute seule. Donc, ça me paraissait un peu étrange de parler à la troisième, presque à la troisième personne. Pour moi, c'était comme si on disait ça... Il s'exprime comme ça. Donc ce nous, à ce moment-là, où je suis dans le tête-à-tête avec mon patient, avec le patient, ça me paraissait pas adapté. Et donc je voulais témoigner de mon engagement dans ce travail. Ça me paraissait plus juste d'utiliser le je.
Alors, je le disais, il y a deux cas cliniques que tu rapportes, donc qui respectent complètement la parité. Je te retrouve bien là, puisqu'on a le premier cas qui est le cas d'un jeune homme de 28 ans. Puis on a ensuite le cas d'une femme de 35 ans. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que, en tout cas moi, ce qui m'a, je dirais, assez passionnée dans toute cette partie-là, c'est que c'est un petit peu comme si on était derrière une glace sans teint, et qu'on observait deux cas cliniques que l'on voit être racontés, et justement en te mettant pleinement en scène dans ces thérapies. Et on voit la relation évoluer, on voit également comment les choses vont avancer, avec des rythmes qui sont différents, d'ailleurs, dans les deux cas. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu as choisi ces deux cas-là et pourquoi pas d'autres ? Qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant ?
Alors, en fait, si je suis totalement honnête, je ne sais pas dans quelle mesure on choisit vraiment un cas où, quand on commence à penser des éléments théoriques, et je pense à ça même quand on fait des formations, c'est-à-dire que c'est rare que j'arrive déjà avec les exemples cliniques que je veux raconter Bon, il y a des exemples qui sont très emblématiques et du coup, je les raconte souvent, mais au fur et à mesure, la clinique alimente ma pratique d'enseignante et ma pratique dans l'écriture. Je ne peux pas dire écrivain parce que ce n'est pas le cas, mais dans ce que j'ai écrit, dans ce que j'ai transmis du côté de l'écriture et dans ce que j'ai transmis du côté oral, dans les enseignements, etc. Ces deux cas, c'était des cas qui m'ont certainement marqué personnellement. C'est des moments importants et peut-être aussi qu'il y a une forme de lien et de proximité avec ces histoires-là. J'étais certainement très touchée par ces deux situations. Et ce sont aussi deux situations qui racontent des histoires de famille dans laquelle la question de la relation, de l'histoire familiale, c'est-à-dire que les outils systémiques sont très intéressants dans une prise en charge de ce genre. Je n'ai jamais pu rencontrer les familles de ces deux personnes qui ne voulaient pas que ça se passe comme ça. Et donc, moi, j'ai que le modèle systémique sur lequel je m'appuie dans ma pratique, sur le plan théorique. Donc, et j'ai trouvé que c'était deux situations assez emblématiques de comment la lecture systémique des relations familiales avec la lecture du génogramme, le travail autour de l'histoire de la famille, des difficultés familiales qui peuvent se répéter, etc., paraissait assez clair dans ces deux situations. Ça, on va dire, c'est la... intellectuellement, c'est comme ça que je le dis, mais je pense que il y a aussi tout cet aspect non neutre qui est certainement c'est des personnes que j'ai avec lesquelles j'ai l'impression d'avoir travaillé, qu'on a travaillé ensemble et que c'était utile pour nous deux.
Alors justement, tu dis utile pour nous deux, dans le deuxième cas, je crois, oui, c'est le deuxième, celui de la jeune femme, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, qui relève du fait que tu remets toi-même en cause la manière dont tu as abordé au départ la thérapie en disant « au départ, j'y suis allée un peu de manière maladroite. Je m'y suis pas forcément très bien pris. J'ai voulu peut-être aller trop vite, trop près, c'est le mot que tu utilises, alors que le climat de confiance avait pas encore pu complètement s'installer, était allé effectivement assez vite sur le terrain de sa sexualité antérieure et actuelle. C'est donc le cas d'une jeune femme qui venait en thérapie avec deux demandes, celle d'avoir un enfant et celle de s'épanouir professionnellement. Et tu dis, j'aurais pas forcément dû le faire de cette manière-là. Et tu mets aussi en avant une notion qui est très d'actualité, bien au-delà du monde dans lequel tu t'inscris, mais dont on parle beaucoup dans l'ensemble des organisations aujourd'hui, qui est le droit à l'erreur.
Alors, certainement quelque chose aussi de personnel, de pouvoir dire là je me suis trompée, mais c'est aussi quelque chose basé sur la théorie, c'est-à-dire dans le modèle systémique, le fait de faire position basse, de pouvoir dire à l'autre je me suis trompée, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, c'est aussi une manière de revenir sur ce qui a été dit, ce qui a été fait, mais c'est aussi une manière de dire à l'autre, je comprends votre étonnement, je comprends votre résistance, je comprends votre mal-être face à une question qui n'était pas vraiment... C'était autour de sa sexualité, puisque la question de la sexualité s'était posée. En fait, je lui pose la question de ses premières rencontres sexuelles. Je pose cette question comme ça, et elle me dit... Non, mais ne me parlez pas de ça, c'est trop tôt, je ne peux pas. Enfin, grosso modo, elle dit quelque chose comme ça, je ne peux pas, je ne veux pas en parler. Et donc, je ne peux que respecter. Et mon travail, je ne pourrai jamais rien faire sans elle. Et donc, je dois avoir toutes les autorisations possibles. Et je ne veux pas lui dire, mais madame, vous venez chez moi pour avoir un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire si on ne peut pas parler de votre sexualité? Qu'est-ce que c'est que cette résistance? Parce que la question de se mettre en situation de dire excusez-moi, je suis allée certainement trop vite, on va aller à votre rythme, c'est vous qui décidez, on abordera cette question à un autre moment, ça ne veut pas dire que j'ai lâche, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai lâché la question, mais je veux attendre quel est le temps de pouvoir m'en parler sans problème et de manière sécure pour elle surtout. Mais c'est aussi une manière de dire qu'il n'y a peut-être pas que de la résistance chez l'autre, il y a peut-être de l'empressement chez le thérapeute. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à tenir compte.
Mm-hmm. Et alors, on voit justement, tu parles de la question du temps dans ce que tu racontes là, et ces questions de temporalité sont très présentes dans les récits. C'est pour ça que je parlais vraiment de glace sans teint, parce que c'est pas simplement une histoire comprimée sur quelques pages, mais ça laisse vraiment au lecteur à apprécier le temps qu'il faut, le temps qui passe, et celui qui va permettre aussi au fil des séances. Alors je suis toujours sur ce deuxième cas où on voit qu'il va se produire des choses. Il va se produire des choses. Il va y avoir des dévoilements, si je peux m'exprimer comme ça, des surprises. Il va y avoir des choses qui vont surgir. Alors ça c'est propre, je dirais, je pense à l'ensemble des thérapies, quelle que soit l'approche. Où est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'approche systémique?
Je m'amuse quand j'entends Sophie parler comme ça, parce que je sais que c'est une grande lectrice de polar, et donc elle vous parle comme si elle parlait d'un polar. Il y a des choses qui vont se passer, il y aura des rebondissements. C'est vrai, mais ça me plaît quand tu rentres comme ça dans le livre. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? Oui, c'est... Non, je pense que c'est quand même le propre de la thérapie. Alors, c'est vrai que plus on accompagne le sujet dans son discours, plus on l'aide à s'exprimer, plus il y a une forme de dynamique qui rentre aussi en scène entre nous. Et du coup, il y a le récit se construit au fur et à mesure, et il se raconte son histoire, et il raconte à un tiers son histoire. Et donc, les choses, elles surgissent au fur et à mesure. Et très souvent, quand on se laisse surprendre, des choses qu'on n'imaginait pas du tout vont apparaître. C'est vrai que c'est aussi cette posture de « je me laisse surprendre par l'autre ». C'est une position où, d'une part, on se laisse ressentir des émotions, parce que, certes, la théorie, elle est là, mais quand on rencontre quelqu'un, on ne le rencontre pas avec tous les livres qu'on a lus et tous les auteurs sur lesquels on a travaillé. Ils ne sont pas sous nos bras. Donc, il y a évidemment de la théorie, mais il y a aussi ce être thérapeute. Ce qui fait que oui, il y a des choses qui se passent et qu'il y a une temporalité pour ça. Et c'est vrai que ça s'enchaîne quand même dans un temps qui n'est pas un temps, parce que ça c'est aussi une question. Il y a des thérapies brèves, des thérapies systémiques brèves. Je ne m'inscris pas dans cette logique de travail. Mais en même temps, je m'inscris dans une logique de travail où l'idée, c'est que le professionnel doit sortir de la vie du sujet. Et donc les thérapies que je fais ne sont pas forcément des thérapies très longue, on ne fait pas 5 ans de thérapie, même si dans certains cas, on voit bien que ça pourrait être nécessaire, mais je me pose la question de l'intérêt de changer de professionnel, quelqu'un qui vient avec un autre regard. C'est rare les patients que j'accompagne, même s'il y a des patients qui auraient besoin et qui ont besoin, et ces patients-là, je les accompagne le temps nécessaire, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, etc. Mais ce n'est pas le gros de ma pratique. Le gros de ma pratique, c'est des thérapies qui durent le temps nécessaire, mais je suis très souvent, et je suis régulièrement dans la préoccupation de est-ce nécessaire ? Est-ce nécessaire qu'ils viennent là ? Et j'interroge très souvent mes patients sur comment vous vous sentez, où vous en êtes entre votre demande initiale et ce qu'on vit maintenant. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment d'espacer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Réfléchissez, on va voir ensemble, parce que je pense qu'on n'est pas, ça c'est certainement personnel, hein, il n'y a pas une... Je ne détiens pas la vérité sur ça, mais je pense qu'on n'est pas là pour rester dans la vie des gens. On est là pour traverser leur vie, pour les accompagner dans une période difficile, quitte si cette période J'ai une autre période qui se reproduit. Enfin, ça m'arrive d'avoir des patients qui sont venus à une période de vie, 5 ans après, me rappellent, disent « Est-ce que vous pouvez me recevoir ?» Ben, pas de problème, évidemment. Votre place sera toujours gardée, alors que je n'ai pas de disponibilité pour des nouvelles prises en charge. Mais je dois garder toujours une place pour mes anciens patients, ça c'est une évidence. Mais je ne veux pas m'installer dans la vie des gens. Donc, d'accord, il y a effectivement aussi cette temporalité-là, du début et de la fin de la prise en charge.
On parle de temporalité, on pourrait aussi parler de rythme. C'est-à-dire que toute la prise en charge, effectivement, elle a un début et une fin, mais elle est aussi rythmée. C'est-à-dire qu'on se trouve dans ce qui est présenté justement comme l'espace intermédiaire, qui est un espace dans lequel il y a une dynamique. Et il y a une créativité qui s'instaure, qui permet aussi de faire avancer les choses.
Alors, c'est vrai que c'est toute la question des... C'est vrai que certains patients nous inspirent, enfin, tous les patients nous inspirent, toutes les personnes nous inspirent. Et cette liberté liée à la non-neutralité fait qu'on va pouvoir récupérer des choses, je trouve... du quotidien. Ça m'arrive de proposer à mes patients de lire des petits livres d'enfants. Ça m'arrive pas de proposer de lire des livres d'adultes, en fait. Hein. Mais ça m'arrive très souvent à des adultes de leur proposer de lire des livres d'enfants. Je propose pas de lire des livres d'adultes parce que je me dis, enfin, qu'est-ce que je veux. Quelquefois, les patients me disent, mais est-ce que vous pensez que je pourrais pas lire des choses? Est-ce que vous pouvez me conseiller des livres sur tel ou tel? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est pas une littérature. Enfin, je lis pas ce genre d'ouvrage qui doit être très utile certainement, mais je peux pas conseiller, donc je n'ai pas la connaissance pour conseiller des livres de psychologie à mes patients. Par contre, il y a des livres d'enfants, puisque j'aime beaucoup la littérature pour les enfants et je l'ai beaucoup lu. Maintenant, je lis un peu moins, mais je l'ai beaucoup lu. De proposer des livres d'enfants qui sont pour moi aussi un passage dans le langage intellectualisé, rationalisé, à un langage plus affectif, plus émotionnel. Donc, faire appel aux émotions. Oui, c'est vrai qu'il y a des situations cliniques que je raconte ici où il y a des métaphores qui viennent dans l'espace thérapeutique, mais aussi des outils systémiques qui viennent dans l'espace thérapeutique. Pas dans l'idée d'outils, de sortir plusieurs gadgets de sa poche de thérapeute, mais à certains moments, c'est une évidence. Ça devient une évidence que ce qu'il est en train de me raconter fait appel à des choses. Et donc, dans cette logique de non-neutralité et de co-construction, alors ce qui naît dans l'espace thérapeutique doit revenir à l'espace thérapeutique. Mmh. Donc, moi, je suis comme une espèce de réflecteur de ce qui se passe dans cet espace. Et donc, ce que je perçois doit revenir à la scène de l'espace thérapeutique. Et donc, très souvent, j'ai dit, mais ce que vous me dites me fait penser à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une histoire à vous raconter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Enfin, voilà.
Mm-hmm. Alors, justement, la place des outils est aussi une partie du livre, hein, où tu, justement, loin de présenter, de sortir ta boîte à outils magique du super bricoleur de thérapie systémique. Cela dit, tu présentes une palette d'outils utilisés en thérapie systémique familiale, d'ailleurs, pas nécessairement en thérapie individuelle. Et tu présentes des outils comme le génogramme, le questionnement circulaire, et puis les très intrigants objets flottants. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces objets flottants?
Alors, les objets flottants, en fait, c'est un livre qui a été publié par Philippe Caillé il y a plusieurs années et qui fait partie d'une des bibles, on va dire, des manuels des systémiciens. C'est Philippe Caillé qui est le directeur de cette collection et qui, du coup, a écrit la préface de ce livre. Mmh. Et donc, j'étais vraiment très honorée qu'il ait lu ce manuscrit et accepté de le publier, en tout cas, et proposé à l'éditeur de le publier. Alors Philippe Caillé donc a écrit plusieurs ouvrages, surtout sur les thérapies de couple, et dans parmi ces ouvrages-là, un ouvrage qui s'appelle Les objets flottants, où il propose des formes d'exercices pour favoriser justement le passage de ce qu'on appelle le langage, on va dire, verbal au langage non-verbal. Donc c'est une tentative de détourner ou de tricher avec, on va dire, utiliser des termes un peu savants, mais le sourd-muet, c'est-à-dire les défenses du sujet. Donc comment éviter ces défenses-là par les métaphores, par ces outils systémiques-là. Et effectivement, je ne présente pas tous les outils de Philippe qu'il propose hein, dans son livre qui s'appelle « Les objets flottants », aussi publié dans les ESF. Très riche, très intéressant, bien sûr, je vous le conseille. Mais je vais présenter ici ceux que j'utilise le plus souvent, ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise. Et donc l'idée, ce n'est pas d'adapter la thérapie ou la personne à l'outil, mais c'est à nouveau cette idée que tout d'un coup, ça devient une évidence que ça pourrait être intéressant de faire un jeu de loi avec eux, avec cette personne, que ça serait intéressant d'utiliser la chaise vide pour représenter les absents et ainsi de suite.
Et c'est aussi donc ces outils qui contribuent à donner de la dynamique aussi à la thérapie. C'est cet aspect créatif et dynamique se retrouve avec ces outils. Dans ton ouvrage, donc, tu as parlé de la préface de Philippe Cahier. Est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot d'un autre homme qui a travaillé, c'était sur cet ouvrage et qui a écrit la postface, donc qui est Gilbert Prégnaud.
Oui. Alors Gilbert Prégnaud, c'est un collègue qui est psychologue et qui habite au Luxembourg et qui exerce au Luxembourg, avec lequel je travaille depuis plusieurs années, et en allant faire des conférences chez eux, et lui vient chez nous faire des conférences très régulièrement, bien plus régulièrement que je ne vais au Luxembourg. Gilbert, il est pour moi, il propose d'ailleurs pour nos stagiaires l'IDES une formation sur les familles d'origine, sur le travail sur soi, etc. C'est quelqu'un qui est pour moi très représentatif de l'humanité, d'un thérapeute accueillant, de quelqu'un qui est accessible. D'ailleurs, il fait partie de la commission des droits de l'homme. Hein, et donc... Oui, c'est quelqu'un de très humain et c'est un professionnel que je reconnais comme étant voilà, quelqu'un de très compétent. Et donc, je lui ai proposé de lire cet ouvrage et il m'a dit des choses très intéressantes. Je lui ai proposé si tu penses tout ça, tu ne veux pas écrire la postface. Donc, c'est comme ça qu'il a écrite.
Alors, je pense qu'on va donner un petit peu... la parole à la salle, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire avant de donner cette parole-là ? Et puis on va... Voilà.
Je voulais remercier déjà, oui. Comme j'ai fait dans le livre, les personnes qui m'accompagnent, c'est-à-dire mes patients, les patients, les étudiants, les collègues. Je voulais remercier les ESF d'avoir accueilli cet ouvrage et accepté de le publier, de faire confiance à toi qui est là, bien sûr mes proches qui sont là, des amis qui sont toujours présents. Et l'idée pour moi, c'est ça. C'est vrai qu'il y a très peu de temps, il y a un collègue et ami de Montpellier qui a lu le livre et qui m'a écrit quelque chose de très chaleureux, de très intéressant, auquel je n'avais pas pensé. Il me dit, mais tu es dans cet ouvrage, tu remets en cause quand même une posture générale des professionnels de l'écoute et du soin. Et donc, c'est quand même très intéressant de se dire qu'il y a peut-être aussi une autre posture et que le monde actuel nous engage à une autre manière d'être thérapeute et d'être psy. Donc, je pense que ce livre... Effectivement, c'est un livre écrit pour les professionnels, mais c'est aussi écrit pour des personnes qui s'intéressent à l'autre.
Eh bien voilà, en quelques mots, je voulais juste dire que je suis, au nom d'ESF, très heureuse d'avoir eu la possibilité, la chance même de publier l'ouvrage d'Ivy. Effectivement, comme elle l'a dit, ESF publie des ouvrages de référence en matière de thérapie systémique familiale, et ce qui a fait écho chez moi, en fait, c'est la posture que prend Ivy, qui pourrait de prime abord paraître un peu iconoclaste. Comment est-ce qu'on peut parler de systémie alors qu'on ne suit qu'une personne? Et au contraire, eh bien, je trouve qu'elle elle démontre très bien son propos. Elle permet aussi aux thérapeutes qui sont formés justement à la systémie de montrer comment est-ce que les outils qui sont utilisés en thérapie familiale peuvent l'être tout à fait à bon escient en thérapie individuelle. Et donc, quelque part, je pense que ce livre fait passer la thérapie systémique à une autre échelle, lui fait franchir une marche supplémentaire. Et donc, je suis très ravie, moi, que ce livre soit publié, et effectivement dans la collection de Philippe Caillé, qui a beaucoup apporté à ces questions-là en France. Voilà.
Je vous remercie pour cet après-midi. Merci beaucoup d'être venus nombreux.
Merci.
Merci.